blog, il est aussi relié à un compte Facebook, à Twitter et Instagram plus récemment. Voilà, je suis un petit peu partout.
Oui, tu es un peu partout, mais on te voit en tout cas. Et Olivier, qu'est-ce qui t'a appris de faire des vidéos YouTube en fait?
Alors c'est une raison complètement débile en plus. C'est en fait, j'étais au salon du livre de Genève. Bon, déjà je connaissais beaucoup de booktubeuses qui étaient très sympas et qui me disaient « Ah, faut que tu te lances, etc. » Et je leur disais « Mais certainement pas parce que je ne sais pas faire. » Et elle me disait justement, c'est ça qui est marrant. Et en fait, au salon du livre de Genève, j'étais très fier de moi, j'étais très content parce qu'en tant qu'auteur, j'avais du monde, j'avais de la queue et je me sentais comme une star parce que j'avais 40-50 personnes qui faisaient la queue. Et puis je regarde à ma droite et en fait, je vois que tous les stands sont bloqués par une queue qui fait mais globalement à peu près tout le tour du stand qui bloquait aussi tous les stands de littérature adulte, machin, etc. Et en fait, c'était pour une youtubeuse qui s'appelait... celle qui a fait Secret Story, la machin. Bon, bref, c'était pour une youtubeuse qui avait écrit un livre et qui avait, je crois qu'il y avait 1400 personnes qui attendaient pour elle.
Une jeune Marie.
Non, c'était pas une jeune Marie, mais ça aurait pu. Enfin voilà. Et donc j'étais assez impressionné, je suis ah ouais, c'est bien. Et en fait, on a mangé avec cette youtubeuse qui me dit non, mais en fait, il faut absolument que tu te lances, tu verras, de toute façon c'est facile, les gens vont suivre, ça va être formidable, il suffit que tu souris. J'ai fait, bah, je vais sourire, ça va être bien. Et donc voilà, donc je suis parti sur le concept de, comme en fait je suis très paresseux et qu'on m'avait expliqué que le montage, je pense que Maureen va vous en parler mieux que moi, mais que le montage, la préparation, les trucs, ça prend du temps. Moi je me suis dit, bah c'est simple, je vais pas faire de montage, je vais pas faire de préparation, je vais faire des vidéos d'une minute comme ça avec l'iPhone et puis bah, les gens qui aiment bien tant mieux, les gens qui aiment pas mieux, regarderont pas. Et voilà, donc le concept était lancé, un concept qui, je pense que vous pouvez me l'accorder, était extrêmement brillant. Et du coup, il y a une vingtaine de vidéos pour l'instant sur le chaîne.
Et franchement, ça vaut vraiment le coup de les voir. Rien pour voir le moment avec la perruque. Je pense que ça, c'est le moment où j'ai explosé de rire.
Oui, je porte très bien les perruques.
J'ai eu l'impression que tu étais partie chercher ta caisse de jouets de quand tu étais petit et que tu avais sorti toutes les conneries que tu avais mis dedans, quoi. Donc comme vous le voyez, on a un auteur assez moderne, n'est-ce pas, qui se met à YouTube, etc. Et une blogueuse bien installée avec nous. Et je vais te demander, Olivier, est-ce que le fait que tu aies ouvert une chaîne YouTube et que tu aies posté des vidéos, ça a changé quelque chose par rapport à tes lecteurs?
Alors, changer, pas forcément, mais en fait, faut savoir que bah, en tant qu'auteur, généralement, les gens connaissent pas forcément, ne savent pas forcément à quoi on ressemble, sauf s'ils nous croisent sur les salons. Donc, c'est vrai que bah, qu'on marche ou qu'on marche pas, sauf si on s'appelle Welbeck ou quoi que ce soit, les gens ne nous reconnaissent pas dans la rue. Alors que moi, les 2-3 fois où ça m'est arrivé qu'on m'ait reconnu, c'était du coup à cause des vidéos YouTube. Genre, mais vous seriez pas l'écrivain? Je fais, bah ouais, vous avez vu des choses. Non, mais je regarde vos vidéos. Ouais. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, les publics se mélangent beaucoup. C'est-à-dire que les gens qui vont regarder mes vidéos sont souvent aussi des gens qui sont des gros fans. Et donc, en fait, globalement, 90% des gens que je croise en salon, même là, aux aventuriales, sont des gens qui ont déjà vu, qui connaissent déjà les vidéos. Et donc, on se sent toujours un petit peu ridicule parce qu'on essaie de faire l'auteur sérieux. On fait, voilà, ce livre a eu tel prix. Ah, oh, j'adore quand vous avez mis la perruque. Donc du coup, forcément, ça décrédibilise un petit peu, mais bon, c'est bien parce que finalement, tout buzz est bon à prendre.
Je cherche mes questions. Et du coup, est-ce que les vidéos t'ont apporté des lecteurs finalement, des gens qui n'étaient pas forcément dans l'idée et que ça t'a amené des gens qui d'un coup t'ont lu grâce aux vidéos?
Ouais, bah, les réseaux sociaux de manière générale, c'est vrai qu'en fait, quand on poste... qu'il s'agisse d'une vidéo, qu'il s'agisse par exemple de poster une couverture d'un nouveau livre qui va sortir, les gens vont bien aimer, du coup vont la partager. Et c'est vrai que du coup ça me donne de nouveaux lecteurs. Après, il y a des gens clairement qui suivent par exemple les vidéos YouTube et qui me disent bah, moi j'ai jamais lu un livre de ma vie, mais je trouve que vous êtes rigolo avec une perruque. Donc voilà, ça, c'est. Mais c'est clair que c'est un atout, je pense qu'on rentrera plus dans le détail plus tard, mais c'est clair que c'est un très très gros atout pour un auteur d'être présent sur les réseaux sociaux.
Et justement, en parlant de réseaux sociaux, Maureen, toi tu as d'abord commencé avec un blog écrit, et qu'est-ce qui t'a poussé finalement à aller sur d'autres plateformes?
Alors j'ai commencé donc il y a plus de 5 ans sur YouTube grâce à d'autres chaînes, notamment Jessica Livradict qui avait lancé un petit peu tout ça. Je trouve que le support vidéo a un petit côté un peu plus interactif. Et donc c'est un public qui est assez différent finalement des lecteurs du blog. C'est pas le même public entre le blog et les vidéos. Donc une façon de toucher plus de personnes et peut-être des lecteurs plus jeunes aussi, qui sont plus tournés vers le visuel, l'interactif, le dynamisme, plutôt que vers des chroniques assez longues écrites sur le blog.
C'est un peu ce qu'on reflétait quand on en parlait avec Mickaël sur Facebook d'ailleurs, quand on a préparé en fait un peu la conférence, enfin surtout lui. Il nous parlait lui de la place de cette littérature sur les médias en disant que on dit souvent que les jeunes ne lisent plus. Et je pense que là on a deux personnes à côté de nous qui peuvent me dire que c'est faux, déjà première chose. Et surtout le fait d'intégrer peut-être ces médias sociaux, d'intégrer la lecture et la littérature dans ces médias sociaux, est-ce que ça ne peut pas justement, à votre avis, donner un rebond en fait à la littérature, à une vision autre en fait par les jeunes du livre? Allez.
Steve. Non, on en parle avec les copines blogueuses et youtubeuses, on voit vraiment que il y a de très très jeunes lecteurs qui viennent sur les vidéos et qui nous disent « J'ai acheté ce livre parce que vous en avez parlé, parce que tu en as parlé » et qui se mettent justement à venir en salon, qui se mettent à lire des livres, qui ont parfois 11-12 ans. Là, j'ai rencontré des jeunes filles à Gerza du CDI qui étaient hyper motivées, qui vont rencontrer Olivier Gué vendredi.
Ils sont arrivés en courant vers lui.
Voilà, ils avaient préparé un petit goûter.
Franchement, c'est super sympa.
Et on a parlé un petit peu de BookTube quand je les ai rencontrées. Et elles avaient cette envie aussi de faire un blog, de se mettre en vidéo. Et pourtant, elles avaient 11 ou 12 ans et elles dévoraient les livres. Elles ont dévoré Le Mort et ma couleur.
Ouais, c'est ça,
elles viennent en médiathèque. Il y en a une, elle lit un livre par jour. C'est vraiment, c'est chronophage. Et c'est un petit peu justement grâce à tous ces blogs, toutes ces vidéos qu'elles regardent, qui les inspirent et qui leur donnent envie de lire plus.
Bah, moi, en plus, effectivement, il y a deux choses. La première, c'est que, effectivement, les réseaux sociaux, c'est un moyen de toucher aussi tous ces ados, tous ces jeunes, etc. Et effectivement, moi, je fais beaucoup de rencontres scolaires, dans des collèges, dans des lycées. Et typiquement, moi, je trouve ça toujours assez amusant. Parce que, par exemple, sur Twitter, on voit en fait quand quelqu'un nous retweet, on voit ce qui se passe, etc. Et donc, quelquefois, moi, je mets un truc tout bête. Je mets, il y a prochain tome qui va sortir, ou alors je suis dans la région Champagne-Ardenne à tel moment, etc. Et je vois que c'est retweeté, donc je dis tiens, c'est marrant qu'il reste à retweeter, etc. Et puis parmi les retweets, je vois par exemple une élève de 5e qui fait ah machin, Olivier va passer, etc. Regardez et tout, et puis c'est retweeté par ses copines et puis par ses copains, etc. Et en fait, je me retrouve quelquefois sur des pages où je ne comprends pas du tout. Alors quelquefois, je ne comprends même pas le langage qu'ils utilisent parce qu'il y a plein de trucs, mais c'est sympa. Et la deuxième chose que je voudrais dire, alors attention, ça va faire très plaisir à Maureen, mais c'est vrai, c'est que, en fait, moi je suis auteur jeunesse, mais auteur adulte aussi, j'ai écrit des romans policiers, et qui ont eu beaucoup de couverture médiatique classique. Et en fait, du coup, j'ai pu comparer l'impact que ça a. Et dans ce qu'on appelle la littérature blanche, alors moi c'est la littérature policière, donc voilà, mais dans ce qu'on appelle en tout cas la littérature adulte, par exemple, la consécration, c'est d'avoir un article dans Libération. J'ai eu un article dans Libération, ça s'est pas vu sur les ventes. J'ai eu des coups de cœur et des vidéos sur la chaîne de Maureen, sur des chaînes vidéo, etc. Et je l'ai vu du jour au lendemain. C'est-à-dire que j'avais des gens qui venaient en salon qui disaient « Ah ben je t'ai vu sur la chaîne de Bulldog, je t'ai vu sur la chaîne de Maureen, je t'ai vu sur machin, etc. » Donc aujourd'hui, et c'est pas du tout une exagération de le dire, sauf cas exceptionnel, alors évidemment la grande librairie tout le monde en rêve, voilà, mais aujourd'hui je n'ai pas honte et ce n'est pas une exagération de dire que je préfère qu'une chaîne BookTube qui ait un certain nombre d'abonnés fasse un coup de cœur sur un de mes livres plutôt que d'avoir une page dans le Figaro, dans le P ou dans le Challenge.
Et ça revient aussi à un des axes que nous avait présenté justement Mickaël, où il expliquait que du coup au fur et à mesure les maisons d'édition certaines ont bien compris l'importance des blogs, l'importance en fait de ces personnes qui partagent leur lecture, qui donnent envie, etc. Parce que c'est des très bons agents de presse. Et donc du coup, il existe ce qu'on appelle du coup des services de presse, qui permettent donc à ces vlogueurs, à ces youtubeurs de pouvoir avoir un temps d'avance, de pouvoir faire au final de la promotion, autant pour la maison d'édition que pour les auteurs. Et il y a eu pas mal de déchaînements sur les chaînes, mais bon, ça on s'en fiche un petit peu. C'est plus ce côté, au final, ça, pour moi, je pense que ce sera aussi le cas de Maureen, on a un nouvel acteur de la chaîne du livre qui s'est mis en place depuis quelques années, on va dire, je dirais 5 ans, où c'est, ça commence vraiment à prendre, ouais, enfin, 5-6 ans. Et du coup, Maureen, toi, tu te placerais comment? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Est-ce que tu penses que... oui, je t'embête. Est-ce que tu penses que ça pourrait être mieux arrangé? Ou je sais pas, parle-moi-en. Parle-moi de tes spécialités de presse et comment ça se passe pour toi.
Question qui fâche.
Allons-y.
Ce que je peux dire, c'est que j'ai vu le début des services presse. Mm-hmm. Ça a quand même beaucoup évolué depuis. Est-ce que c'est bien ou pas? Je pense qu'il y a des améliorations, à mon avis, à apporter. Surtout qu'il y a pas mal de blogueurs et de booktubeurs maintenant qui se professionnalisent. Donc il y a le côté argent forcément qui entre en compte et qui peut être un petit peu gênant. Je pense que, et c'est ce que disait Olivier, je le rejoins, les blogueurs booktubeurs qui ne sont peut-être pas considérés comme des professionnels ont quand même des choses très intéressantes à dire et sont très suivis. Ils sont des prescripteurs maintenant, je pense, sur les réseaux sociaux. Voilà, donc je pense qu'il faut les impliquer et mieux les intégrer dans la chaîne du livre. Après, comment, je ne sais pas ce qui sera le mieux, mais il ne faut pas les mettre de côté.
Et juste rajouter quelque chose, mais moi j'ai entendu des critiques qui tournent souvent, qui disent bah, les booktubeurs, au fur et à mesure, plus ils ont de succès, plus bah, du coup ils vont faire quasiment que des services presse, ou ils vont ne plus lire des auteurs qu'ils connaissent pas, ou ne plus lire des auteurs autorités, etc. Et moi, même personnellement, il y a des booktubeuses qui me suivaient et qui maintenant pour vivre de leur chaîne, bah, du coup font aussi des... Mais en fait c'est la même chose dans n'importe quel métier. C'est-à-dire que par exemple moi je suis écrivain, je vis de mon métier, et il y a des gens qui pourraient me reprocher. Autrefois je faisais des nouvelles, par exemple il y avait des journaux ou des anthologistes qui me demandaient des nouvelles et j'écrivais des nouvelles avec plaisir. Et aujourd'hui, bah, comme je vis de ma plume, je passe mon temps en fait à faire des choses plus, je suis désolé, mais plus lucratives. C'est parce que bah, j'en vis, donc du coup j'écris des livres, etc. Et donc on pourrait me reprocher en disant bah, t'as pris la grosse tête, tu fais plus une petite nouvelle de pages pour le fanzine d'à côté. Mais en fait, je pense qu'il y a cette mécanique qui est dans n'importe quel métier, dans n'importe quel domaine, qui à partir du moment où en fait, on fait de notre passion un métier, on est obligé effectivement de faire des choix qui ne plaisent pas forcément à tout le monde, en tout cas de faire des choix à ce niveau-là.
De toute façon, dès que l'argent rentre en compte.
Exactement. Puis moi, j'ai un arbre qui est tombé dans ma piscine, donc j'ai besoin d'argent, tout ça.
Ça a été pas mal partagé, ça aussi, 600 $. Hein, je précise aussi, je suis aussi booktubeuse, mais très petite parce que là j'ai pas le temps au final, donc du coup je vais avoir mis une vidéo en un an. Ouhou. Et je n'ai pas de service de presse, mais par contre, on peut voir aussi, par exemple, Maureen a des services de presse, Maureen a beaucoup d'abonnés, et Maureen continue toujours à présenter des auteurs auto-édités, des auteurs de petites maisons d'édition, et je pense qu'on en a quand même beaucoup dans la sphère blogueur, booktubeur, qui continuent à présenter des auteurs forcément moins connus, etc. Et c'est intéressant parce que aussi des jeunes qui ne sont pas forcément qui viennent pas forcément en salon, etc., ça leur permet aussi de connaître des maisons d'édition plus raisonnables, plus petites, etc., et de pas se contenter de Gallimard, Bayard, etc., qui croisent plus facilement médiathèque, école, etc., parce que avant blogueur et booktubeur, en littérature de jeunesse, en tout cas c'est de ça que je peux parler, on avait d'autres prescripteurs qui sont les enseignants. Et les enseignants, malheureusement, ne peuvent pas tout connaître. Et les petites maisons d'édition ne les connaissaient pas trop, à part si l'auteur allait taper à leur porte en disant « Oui, moi je suis publié, j'aimerais bien intervenir avec vous. » Et c'est vrai que là, ça permet aussi aux enseignants, aux écoles, de s'ouvrir un peu plus à d'autres maisons d'édition plutôt que les grosses, et puis faire démarrer d'autres auteurs aussi. Et ce côté prescripteur, je pense qu'il est vraiment très très intéressant. Et justement, je voulais aussi parler de ça un peu. C'est, au final, YouTube est un outil de prescription pour beaucoup de choses. Et est-ce que vous pensez qu'on a vraiment, avec la littérature, on a vraiment une place? Est-ce que parmi tout, les chaînes beauté, les chaînes comme le Fossoyeur sur le cinéma, est-ce que vous pensez vraiment qu'on arrive à avoir... Est-ce que c'est les mêmes abonnés pour votre avis? Est-ce qu'à votre avis, ils vont voir autant gastronomique que Olivier Gay et Maureen?
Alors clairement, le BookTube, la plus grosse chaîne, je crois que c'est Nine actuellement, qui doit avoir 60 000 abonnés. Quand on voit Cyprien qui est à je ne sais pas combien de millions, milliards d'abonnés, voilà, c'est pas du tout la même ampleur. Ça commence à monter petit à petit BookTube en France. Aux États-Unis et dans les pays hispanophobes.
On va éviter quand même
En même temps, on les déteste, on est d'accord.
Dans les pays hispanophones, Espagne, Amérique du Sud, je pense que les grosses chaînes ont 300 000, 400 000, 500 000 abonnés. Donc c'est pas encore. Voilà, en France, ça commence tout doucement. Je pense pas que ce soit les mêmes abonnés qui vont voir des chaînes de beauté et des chaînes YouTube. Après, il y a certaines, il me semble, je ne regarde pas du tout, mais youtubeuses beauté qui se mettent à parler un petit peu de livres et qui justement vont citer des booktubeuses. Et donc, ça peut apporter un renouveau, un regard, une visibilité. Une visibilité, voilà.
Et moi, je pense, après, là, tu pourras me confirmer parce que c'est pas forcément la même chose, mais je pense aussi que les abonnés, les gens qui vont être sur une chaîne BookTube sont des gens qui sont plus intéressants pour nous, enfin pour les auteurs. C'est plus concentré, c'est-à-dire qu'en fait, les gens qui vont aller sur une chaîne de tel Cyprien, etc., ils vont y aller parce que c'est marrant, parce que c'est des sketchs qui sont sympas, etc. Mais si demain Cyprien dit que le gel douche Axe est phénoménal, c'est pas ces 10 millions d'abonnés qui vont acheter le gel douche Axe. Il y en a une très très petite frange qui reste importante, hein, parce que vous prenez 1% de 10 millions, ça fait beaucoup, mais qui va le faire. Alors que quand vous êtes sur une chaîne BookTube, les gens ont fait la démarche de s'inscrire sur une chaîne BookTube qui ne parle que de livres. Donc en fait, quand vous avez 30 000, 40 000 abonnés, c'est 30 000, 40 000 personnes qui sont normalement des lecteurs ou des lectrices compulsives, qui cherchent des conseils de lecture, ou en tout cas qui sont ouverts à ces conseils de lecture. Et donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur le côté prescripteur, que quand je vois que même une chaîne qui a 5 000 ou 10 000 abonnés qui fait un coup de cœur sur un de mes livres, je vois un impact assez vite, parce que bah, sur 5 000, 10 000, c'est pas 1%, mais c'est peut-être 10 ou 15% qui vont s'intéresser. Et en plus, comme c'est souvent une passion, je pense que tu as fait ça par passion quand même à la base, ça se voit. C'est-à-dire que j'ai pas encore vu de chaîne BookTube qui va être, quand elle aime un livre, qui va le dire de manière molle, ou alors la chaîne ne marchera pas. C'est-à-dire que c'est très rare qu'on voit quelqu'un qui fait « Bon, bah écoutez, ce livre, vraiment, il est très bien, je pense qu'il faut que vous le lisiez, et vous allez voir, vous allez passer un bon moment. » Quelles que soient les chaînes, en tout cas les chaînes qui cartonnent, moi je le vois, les gens sont là « Mais ce livre, il faut vous l'acheter, mais prenez-le, mais c'est incroyable, mais regardez mais ce livre. » Alors regardez comment il écrit à l'intérieur, c'est pas magnifique, regardez ses illustrations, c'est génial. On a l'impression de voir du téléachat, mais en même temps, ça nous fait chaud au cœur, parce qu'on voit que les gens ont aimé le livre, les gens ont apprécié, et du coup ça a forcément un impact plus important. Donc c'est vrai que bah, voilà, il y a moins d'abonnés sur les chaînes BookTube que sur les chaînes beauté, mais peut-être que c'est des gens qui sont aussi plus sensibles et plus intéressés aux messages qui sont plutôt qu'à la personne en elle-même.
Et je trouve qu'il y a un bel aspect communauté sur BookTube, mais assez soudé quand même. On commence à y avoir beaucoup de monde, donc on ne connaît pas toutes les chaînes forcément.
Genre, vous ne détestez pas entre vous.
Ah bah, forcément, je pense des petites histoires, mais voilà, comme dans toutes les communautés, bien sûr. Non, mais c'est assez bon enfant quand même, de ce que je peux voir. Assez soudé, et les personnes qui regardent les chaînes sont vraiment à fond aussi, autant que les booktubeurs et les booktubeuses, et on a assez souvent des commentaires qui disent « J'ai acheté ça grâce à toi », et ouais, les gens achètent énormément quand même, et ça devient même chronophage, ça devient... Voilà.
Justement, en parlant de communauté, au final, ce qui est aussi intéressant, c'est que chaque booktubeur crée sa propre communauté qui plus ou moins s'étend un peu en tache d'huile sur celle des autres, etc. Hein, tout le monde se croise un petit peu, c'est un petit monde qui s'ouvre de plus en plus. Et est-ce que t'es pas émerveillé de les voir échanger dedans? Échanger entre eux. Tu sais, dans les commentaires, souvent tu vois, ils se répondent les uns les autres sans que toi t'as à faire quelque chose.
Ah, oui, oui. Ah oui, une fois que c'est lancé, en fait, les personnes qui sont là font vivre la communauté quasiment sans nous parfois. Hein. Ça marche bien. On n'a pas beaucoup parlé d'Instagram et Twitter.
Justement, vas-y.
Et c'est vrai que j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est juste une impression, mais que sur Instagram, c'est encore un autre public. Et qu'on a des Instagrammeurs. Bookstagrammeurs qui ont une grosse communauté sur Instagram et qui pourtant n'ont pas de blog, n'ont pas de chaîne YouTube, mais juste par photo arrivent aussi à prescrire, à être prescripteurs juste par photo.
En effet, c'est un nouveau média très intéressant parce qu'il y a vraiment ce côté immédiat. Voilà. Par rapport à YouTube, il faut se poser pour regarder la vidéo, suivant les longueurs, les favoris. Et par rapport au blog où il y a beaucoup d'écriture, de lecture à avoir, Instagram c'est facile. Hein. Hop, une photo, trois hashtags et c'est bon. C'est un peu c'est le Twitter de l'image, quoi. Donc, et est-ce que tu l'utilises, toi, Olivier, Instagram ?
Alors oui, je suis mis un petit peu tard. C'est pareil, en fait, chaque fois c'est des rencontres débiles qui font que je me mets sur les réseaux sociaux parce que Facebook c'est bon, je m'en vais tout seul. Twitter aussi, même si j'ai toujours pas compris l'intérêt de Twitter, mais ça je le comprends toujours pas. Mais bon, il y a des gens, donc j'y vais. Par contre, Insta, en fait, je m'étais dit, mais je comprends pas pourquoi et tout. Et en fait, j'ai une amie, je suis désolé, c'est toujours des anecdotes pourries, mais voilà. En fait, j'ai un ami qui a une agence de mannequins et j'ai une amie en fait qui participe au concours Miss France et en fait qui me dit mais toi qui es écrivain, il faut absolument que tu aies ton compte Instagram, regarde, moi j'ai 80 000 followers, toi tu vas voir pareil. J'étais genre, je pense qu'on n'a pas vraiment les mêmes atouts à mettre en avant. Ouais, l'arbre dans la piscine, c'était pas exactement la même chose que les photos profondes au bord du lac en train de dire je réfléchis à régler la fin dans le monde. Mais au final, c'est vrai que ça m'a fait marrer, donc du coup, je me suis mis sur Insta. Et en fait, c'est vrai que là, j'ai un peu plus de 1000 personnes sur Instagram, ce qui a bien démarré. Et je dois dire quelque chose par rapport à ce que tu disais sur le côté tâche d'huile, sur les communautés. Moi, il y a un truc que je trouve vraiment fascinant, c'est en fait, depuis le temps qu'on nous prédit la mort du livre, le fait que les gens lisent de moins en moins, etc., je pense que ça aurait pu être le cas, et je pense que les réseaux sociaux, de manière générale, ont contribué à faire vivre le livre, parce que je le vois de plus en plus, alors le cliché absolu, c'est le salon Montreuil, mais ça se voit dans tous les autres salons, c'est qu'en fait, je suis convaincu qu'il y a plein de lecteurs, ou surtout de lectrices, en l'occurrence, c'est souvent des lectrices, il y a plein de lectrices qui lisent parce que ça leur permet de faire partie d'une communauté. C'est-à-dire, en fait, qu'ils vont se rejoindre à Montreuil, il y a des gens qui se rejoignent, qui font un pique-nique, limite, elles n'en ont rien à faire des auteurs, en fait, c'est juste l'occasion de se rencontrer, de pouvoir discuter, de se faire des amitiés. Moi, à mon époque, on avait le caramel, machin, etc. Voilà. Là, aujourd'hui, MySpace, exactement. Là, c'est une autre occasion, et c'est vrai qu'en fait, je trouve que ça a énormément joué parce que c'est un liant entre les gens, et qu'en fait, bah, maintenant, c'est quoi ? T'as pas lu ce livre, t'as pas lu machin, on va faire une lecture commune, on va lire là-dessus, etc. Et donc, merci de tout mon cœur parce que ça, forcément, bah, nous, ça nous arrange.
Alors là, on a une note d'amour, une note au blogueur de Olivier Gué. C'est vrai que voilà, ce côté page huile, et je me demandais, est-ce que vos abonnés sur, comme tu disais tout à l'heure, Maureen, par rapport, voilà, c'est pas les mêmes qui vont sur YouTube que les mêmes qui vont sur le blog, etc. Est-ce que, bah, pareil avec Instagram, est-ce que tu as cette impression-là, Olivier, qu'il y a des gens qui te suivent sur Instagram mais pas sur les autres médias, et ainsi de suite ?
Alors moi, je me sens toujours coupable, en fait, quand j'ai quelque chose à partager, par exemple une couverture de livre. Donc je mets la couverture de livre, je dis c'est une photo, donc je la mets sur Instagram. Et après, j'ai quand même... La plupart des gens me suivent sur Facebook, mais c'est juste mon actualité, donc je la mets sur Facebook. Et puis, bah, tant qu'à faire, je la mets sur Twitter. Et je me dis, mais en fait, les gens qui me suivent sur les trois, ils vont avoir trois notifications, ils vont avoir trois fois la couverture, ils vont quand même pas liker trois fois, ils vont quand même... Bah si, ils le font. Donc voilà, il est... Mais effectivement, les communautés sont pas complètement perméables. Les gens qui sont sur Twitter, par exemple, sont très 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 différents. C'est vraiment... je vous dis, moi, Twitter, je n'ai toujours pas compris l'intérêt, mais il y a des gens qui ont l'air d'avoir compris l'intérêt, donc du coup, tant mieux pour eux. Par contre, Insta, j'ai bien compris l'intérêt et c'est vrai que c'est une population très différente de celle de Facebook de manière générale. Donc oui, c'est pas totalement perméable, c'est des gens qui peuvent être complètement différents. Et par exemple, bah, tous les ados que je vois en collège, j'en ai quasiment aucun sur Facebook, très peu sur Facebook. J'en ai beaucoup sur Insta par exemple. Voilà.
C'est assez vieillissant Facebook, le fond. Enfin, tout le monde a Facebook, mais finalement peut-être de moins en moins utilisé.
Après, tu as un côté, avec Facebook, tu as un côté prévention qui a été fait beaucoup dans les collèges. Les collèges et tout ça, la prévention du harcèlement, du cyberharcèlement sur Facebook. Et la plupart du temps, déjà, c'est interdit dans les CDI, on peut le savoir. Et il y a aussi ce côté, on n'est censé pas pouvoir ouvrir le profil avant 13 ans. Et bon, beaucoup de parents sont sensibilisés à Facebook, ce qui n'est pas forcément le cas. Alors, c'est grave, ça ne leur parle pas. Alors que ça peut être, si c'est mal utilisé, c'est toujours pareil. C'est un outil, donc... une arme est une arme, voilà. Mais je voulais revenir aussi sur l'histoire du public. On parle beaucoup des jeunes, etc. Mais et les gens plus âgés, est-ce qu'ils sont sur les réseaux sociaux et vous, est-ce qu'ils vous suivent un petit peu? Est-ce que vous avez des gens de, je sais pas, plus de 30, plus de 40, etc.
Sur le blog, je ne sais pas trop, parce qu'on ne peut pas voir les stats par âge. Par contre, sur YouTube, on peut aller dans les statistiques et on peut voir les régions, forcément, moi, c'est la France ou les pays francophones, le sexe, homme ou femme, et l'âge. Et j'ai quand même pas mal de trentenaires et plus, hommes et femmes, qui me suivent. Après, je pense que comme mes vidéos sont assez longues, plus ou moins détaillées, et que j'ai quand même pas de lecture très... Enfin, si j'ai de la lecture jeunesse, mais pas tellement longue adulte, finalement, j'attire un public un peu plus âgé.
Et moi j'ai été très très surpris lorsque j'avais fait une vidéo sur comment on fait une photo d'écrivain. Et du coup j'avais passé justement avec le fameux ami dont je vous parlais, là, qui s'occupait de la Miss France, etc. Du coup il m'a entartré le visage avec plein de crème de machin, enfin j'ai filmé tout le truc, c'était une vidéo d'une minute. Et la vidéo se terminait par le rideau de douche fermé et moi en train de gueuler putain de bordel de merde de lac à la con parce que j'arrivais pas à me débarrasser de cette lac qui m'avait foutu partout. Bon. Alors ça fait rire plein de gens, mais en fait sur Facebook j'ai eu plein de commentaires de mères et de grand-mères qui me disaient « Ah mais alors je comprends pas parce que vous savez, ma fille vous suit avec attention et vous dites quand même beaucoup de gros mots. » Voilà, mais je veux dire, quand je dis pas mal, j'en ai eu 10-12 en fait, parce que du coup, quelqu'un a lancé le sujet et du coup, d'autres personnes ont répondu en disant « Bah oui, c'est vrai, moi, mon fils de 13 ans, machin et tout. » C'est bah déjà, ton fils de 13 ans, il a sûrement entendu pire en collège. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté-là et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait des grands-mères, des mères de famille qui me suivaient avec leurs enfants. Enfin, ça fait un peu peur en fait. Mais voilà, toujours est-il que si j'ai de la lac dans les jeux, je ne triterai pas de dire putain de merde de lac à la con parce que ça collait quand même. Voilà. C'est pas très intéressant comme réponse à ta question. En fait.
Oui, on s'en contentera, mais t'inquiète pas. Je voulais revenir aussi, donc on a parlé Instagram, Twitter, Facebook, mais après on a aussi des sites spécialisés sur la lecture comme Babelio, comme Livralit, etc. Et. En tant qu'auteur, est-ce que tu attends ces commentaires avec impatience? Parce qu'on peut commenter, pour faire un petit topo, on peut commenter les livres qu'on a lus, les mettre dans notre liste de lecture si on veut, etc. Et est-ce que tu vas voir de temps en temps les commentaires qu'il y a dessus? Est-ce que tu les partages?
Alors, petit conseil à tous ceux qui veulent que je lise leurs commentaires, lisez les livres à leur sortie. Parce qu'en fait, au début, mais il n'y a pas que moi, tous les écrivains sont pareils, en fait, au début, on est des gros stressés. Il y a un livre qui va sortir, là moi j'ai deux livres en plus qui sortent le 18 octobre et je vais traquer les réseaux sociaux, je vais tout traquer, c'est ce qu'on appelle un ego search en fait, on tape son nom dans Google et on regarde les résultats. Pourquoi? Parce qu'en fait je sais pas pour l'instant, personne ne l'a lu, donc je sais pas si le livre va plaire ou pas. Il y en a un qui est la fin d'une série, donc il faut que je vois si les gens vont apprécier la fin de série, s'ils sont satisfaits de la conclusion. Il y en a un qui est le début d'une série, donc il faut que je vois si la série... donne envie aux gens de lire la suite. Et pour l'instant, les seuls retours que j'ai, c'est ma maman qui dit « Ah, c'est formidable mon fils !» ma femme qui dit « C'est formidable mon mari !» et mon éditeur qui dit « C'est formidable, donne-moi de l'argent !» Donc, c'est formidable, on va avoir de l'argent. Donc, du coup, pour l'instant, j'attends évidemment avec impatience les premiers 10-15 commentaires qu'il y aura, et que ce soit sur une chaîne, que ce soit même un tweet, rien qu'un tweet qui dit « J'ai adoré », je me dis « Bon, bah, c'est cool, j'ai adoré !» au bout d'un moment, C'est mécanique. C'est vrai que voilà, quand on a eu 200, 300 commentaires, on continue parfois à les lire, mais on est beaucoup moins proactif. Si on tombe dessus, on lit, on dit tiens, voilà. Mais c'est vrai que par exemple, Le Noir est ma couleur, ça, c'est une série qui a maintenant un peu plus de 3 ans. Je tape plus Le Noir est ma couleur dans Google tous les jours pour regarder s'il y a des gens qui en parlent. Si je tombe par hasard sur une chaîne BookTube que je suis et qui en parle, bah, tant mieux. Enfin, s'ils disent du bien, tant mieux. Mais je ne vais pas chercher activement. Donc c'est vrai qu'on est très très attentif, Babelio, Booknode, Livre Addict, on regarde, on suit en fait au début l'évolution du livre. Et puis voilà, quand on commence à voir que les gens aiment bien le livre, ou inversement, ça se trouve, quand on se rend compte que de toute façon c'est une carte perdue, on perd de l'intérêt pour les commentaires, pour les commentations.
Comment ça, t'as pas mis une alerte Google sur les noms de tes bouquins et sur ton nom?
Alors le plus marrant, c'est en fait quand je fais justement cet ego search, il y a Google qui me dit non, c'est la 27e fois que vous l'avez fait ce mois-ci. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez pas mettre une alerte? Et moi à chaque fois je dis non, c'est bon, je vais gérer, ça va bien se passer. Mais là en plus c'est pire parce que pour le premier tome de ma série La Magie de Paris qui est sorti en octobre, j'étais pas au courant. Donc je psychotais pas, mais en fait il a été mis en accès anticipé en fait pour une dizaine de blogueuses ou je sais pas quoi sans que je sois au courant par mon éditeur. Et en fait un jour complètement par hasard je suis tombé, il y a 4 jours quoi, je suis tombé sur une critique de mon bouquin qui est même pas encore sorti. Et donc moi qui me stressais, qui est bonne donc c'est bien, mais moi qui me stressais pas du tout pour mon bouquin, tout d'un coup je suis quoi, il y a des gens qui sont en train de lire, et donc je fais des ego search partout, genre vite, on va essayer de regarder. Je suis allé sur les forums, sur les machins. Non, parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte, mais l'écrivain étant quelqu'un de stressé, vous vous rendez pas compte jusqu'où on peut aller. C'est-à-dire qu'on va sur Livre Addict, on voit que par exemple quelqu'un l'a en lecture, on clique sur le profil de la personne en lecture, on voit qu'elle a un profil Twitter, on va sur le profil Twitter pour voir si jamais elle a parlé en disant oh, je suis en train de lire une lecture formidable. Donc, ouais, au début on est complètement psychopathe et puis après, ouais, ça retombe quoi. Ou alors c'est peut-être que moi.
Et là j'ai un trou, c'était pour la question de départ.
C'était est-ce que tu tiens compte? Attends, j'ai répondu, est-ce que tu tiens compte? Est-ce que ça t'intéresse les trucs qu'il y a sur Babelio, Livre Addict?
Ouais, mais c'était. Ça m'a tellement intéressé ce que t'as dit que j'ai pas oublié. Et du coup, Maureen, est-ce que toi tu partages un peu sur Livre Addict, Babelio, etc.? Est-ce que tu partages tes lectures dessus? Est-ce que tu mets des avis en plus? Et si t'as une plateforme préférée, pourquoi?
Alors, je suis sur Livre Addict et Babelio, mais vraiment sur Livre Addict, j'utilise plus du tout le forum. J'utilisais en 2008 ou 2009, quasiment à l'année de sa création, je crois. Là, plus du tout, parce que plus le temps. Par contre, j'utilise l'outil Bibliomania, qui est hyper pratique pour les lecteurs. Vous pouvez référencer les livres que vous avez dans votre bibliothèque, que vous avez lus, que vous n'avez pas lus, ceux que vous voulez, ceux que vous aimeriez avoir, la wishlist, le mot magique. Donc voilà, Livre Addict, la Bibliomania, c'est plutôt bien. Babelio, j'utilise aussi. Je partage Shopify mes chroniques en fait. Je pense que c'est pas très bien pour le référencement, parce que Google envoie directement sur Babelio et pas sur mon blog, mais c'est pas grave. Voilà, j'utilise ces deux-là. Et peut-être plus une préférence pour l'outil Bibliomania de Livre Addict qui me semble un peu plus clair. Babelio par exemple, on peut pas voir les différentes éditions du même livre. Voilà, c'est un petit détail, mais c'est ce genre de choses-là. Je trouve que Bibliomania est plus clair. Après en tant que lectrice.
Moi j'ai fini mes questions, mais peut-être que vous en avez. Je me lève et puis je vais passer si tu veux.
Bonjour, moi j'aurais une question pour Maureen. Vous parliez tout à l'heure de la place que les booktubeurs et booktubeuses avaient dans la chaîne du livre. Et bon, je vois complètement, je suis bibliothécaire, donc je trouve que vous êtes vraiment. Vous touchez en tout cas une frange que nous on a du mal à toucher, notamment chez les ados, c'est très compliqué pour nous. Donc c'est vertu, mais je crois qu'on n'a pas cette imagination. Est-ce que vous avez des retours de la part des libraires ou même des bibliothécaires sur la place des booktubeurs dans la chaîne du livre? Est-ce qu'ils vous prennent pour un acteur à part entière? Ou est-ce qu'au contraire, il y a encore une espèce de méfiance parce que eux, on va dire, sont professionnels, on fait des études, sont, voilà, et vous êtes plus peut-être considéré comme amateur, mais si c'est pas le cas, hein, mais plus considéré comme amateur, du coup, peut-être moins légitimité à leurs yeux pour parler des livres et amener les lecteurs vers une nouvelle découverte, quoi.
Alors j'ai des amis libraires, mais qui ont mon âge, qui sont très actifs sur Booktube, enfin actifs dans le sens, ils regardent énormément de vidéos et ça les aide. Après ils ont mon âge, est-ce que c'est une question de génération, je ne sais pas. Je suis bibliothécaire dans la vie, dans les médiathèques de Clermont, et mes collègues sont complètement ouverts aux vidéos, ils aiment beaucoup en regarder. Ça les aide aussi beaucoup pour choisir les prochains achats, notamment en littérature jeunesse, littérature imaginaire. Voilà, donc je pense que ça dépend vraiment peut-être des générations, quoique j'ai des collègues qui sont plus âgés que moi, au bord de la retraite, et qui... proche de la retraite, et qui...
Bon, du coup.
C'est bientôt la fin. Et qui aiment beaucoup ce support. Voilà. Attends, est-ce que c'est une question d'ouverture d'esprit? Je ne sais pas, mais... qui s'attachent beaucoup, oui, à ce support pour trouver de nouvelles idées d'achat et de nouvelles façons de faire aussi, d'animer des petites activités, des ateliers en bibliothèque. On a Laetitia Galéane qui était là l'année dernière.
On avait fait la table ronde sur
YouTube l'année dernière, ouais. Qui est bibliothécaire aussi dans le sud de Clermont et qui elle a fait une table ronde, je crois, à la médiathèque de Jaude sur YouTube, BookTube, etc. Donc ça commence à se mouvoir. Votre question?
Qu'est-ce qui pour vous fait le succès d'une chaîne YouTube ou d'une chaîne auteur?
Alors, c'est une bonne question parce que c'est vrai que du coup, à cause de ce fameux ego search dont je parlais, on tombe sur tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que quelquefois vous avez une chaîne à 3 abonnés qui a parlé de vous, mais comme du coup vous tombez sur le lien, vous regardez forcément et vous êtes très curieux de savoir ce que les gens pensent de vous. Et il y a une fascination en ce moment, pas forcément pour BookTube dans l'absolu, mais pour YouTube de manière générale, qui fait que beaucoup de gens se lancent. Beaucoup de gens veulent être Cyprien, comme beaucoup de gens veulent être Enjoy Marie, Enjoy Phoenix, comme beaucoup de gens veulent être Maureen, en fait, en fonction des... Mais non, mais je veux dire, en fonction de leur passion dans la vie, etc. Et ce qui est un petit peu... Ce qui est dommage, mais c'est qu'en fait... c'est vrai qu'il y a pas mal d'ingrédients, à mon avis, pour moi en tout cas, du coup, pour avoir eu pas mal de vidéos de pas mal de booktubeuses, il faut un certain nombre d'ingrédients, il faut du peps, de l'énergie, de la joie de vivre, il faut faire des choses qui sont assez concises tout en étant complètes. Enfin, voilà. Il y a pas mal de choses, mais du coup, le problème, c'est qu'on tombe sur des gens qui cherchent un peu à imiter, c'est-à-dire qu'en fait, qui ont leur booktubeuse préférée. Et qui du coup vont copier l'éthique, vont copier les choses qui marchent, etc. Et le problème, c'est que c'est comme le théâtre, c'est comme, voilà, c'est que dès qu'on fait un peu de plagiat, ça marche plus trop. Quoi,
ça se voit.
Et je voulais en faire la conclusion, mais du coup, je suis désolé, je parle beaucoup. Hein, mais j'avais fait moi une vidéo sur ce que j'avais appelé ça l'écrivain 2.0. Et c'est quelque chose de vraiment injuste, mais ça m'arrange. Alors, je suis très content. C'est vraiment injuste, c'est qu'aujourd'hui on demande à l'écrivain d'être un saltimbanque. Et c'était pas le cas avant, c'est-à-dire qu'avant l'écrivain on le voyait dans sa tour d'ivoire, on l'imaginait en train d'écrire ses romans au cœur du désert, c'était un misanthrope, c'était quelqu'un qui pouvait passer sa vie dans la boisson, l'alcool, etc. Ça faisait même partie de l'image de l'écrivain, et on s'attendait à ce que l'écrivain soit un ours. Et aujourd'hui ça a complètement changé, c'est-à-dire on veut que l'écrivain fasse des bons livres. Mais on veut aussi que l'écrivain soit accessible, on veut qu'il soit sympathique, on veut qu'il participe à des conférences, à des tables rondes, à des réunions, qu'il vienne en salon. S'il a une chaîne YouTube, c'est mieux. S'il est sur les réseaux sociaux, c'est mieux. Donc je disais, moi ça m'arrange parce que j'aime ça. Donc moi je suis super content d'être en table ronde avec vous, je passe un bon moment, j'aime bien le salon, j'aime bien faire ma chaîne YouTube, etc. Mais à côté, moi j'ai des amis qui font des livres qui... Alors moi je fais des livres exceptionnels, évidemment, mais qui font des livres qui sont sûrement aussi bons que les miens, mais qui n'ont pas cette facilité ou cette envie, qui du coup vont refuser des tables rondes, ou alors quand ils ne les refusent pas, ça va se passer peut-être de manière un peu plus coincée, un peu plus gênée, qui ne vont pas être présents sur les réseaux sociaux parce qu'ils trouvent que les réseaux sociaux c'est stupide, qui n'ont pas envie d'aller vers les gens et qui restent à leur table de dédicace simplement comme ça, et ça n'enlève rien à la qualité de leur livre. Mais le fait qu'ils soient moins accessibles, le fait qu'ils n'aillent pas vers les gens fait que leur vente s'effondre. Et c'est dommage en fait, et je le dis sincèrement, encore une fois ça m'arrange, mais je trouve ça dommage que moi je vende plus de livres et je sois plus célèbre entre guillemets, si on peut parler de célébrité, que des auteurs qui écrivent aussi bien voire mieux, simplement parce que j'ai aussi le contact plus facile, alors que c'est pas ce qu'on demande à la base à un écrivain.
Comme si on pensait à un chanteur, c'est d'être bon.
Oui, c'est vrai.
Actuellement, c'est un peu ça. Hein. Et on a un parallèle qui se fait, et je trouve qu'on le voit de plus en plus, je suis assez d'accord avec toi, Olivier. on le voit de plus en plus que on demande aux auteurs plus que ce qu'ils devraient faire, c'est-à-dire simplement écrire.
Voilà. C'est ça.
Est-ce que j'ai encore une question? Alors on va peut-être arrêter là et profiter du chant de Dame Sylvie. Et je vous remercie de votre présence et de votre attention.
Merci beaucoup.